L'homme a, au fond de lui, depuis toujours, un besoin de spiritualité. C'est peut-être un besoin qu'on oublie de nos jours, mais enfin, il existe quand même. Alors, il a cherché, il cherche, avec le mystérieux, l'indicible, à trouver quelque chose, disons une divinité, qui lui verra une voie pour cette terre ou pour plus tard. Il veut mettre sa vie en accord avec ses principes et obtenir des bienfaits, une protection pour sa vie actuelle. Il reconnaît sa faiblesse, ça c'est déjà quelque chose, et pour cela, il va pas hésiter à créer eh bien, des rites et de s'adresser, donc disons, à des divinités pour entrer dans une intimité avec elles. D'où des autels, des cérémonies, des sacrifices, des prières, et ça marque l'humanité. Mais on reconnaît pour les chrétiens quand même que Abraham a dressé des autels, que le temple de Jérusalem fut pour les juifs un pôle essentiel, la Bible est dans une autre idée un monument, et on se voit, lorsqu'on lit la Bible, que Jésus priait son Père. Et les occasions, j'allais dire, ne lui manquaient pas. Il priait avant un événement, il priait pour prendre une décision, pour être en communion et en intimité, disons, avec lui, ce qu'en fait qui prouve que c'est bien que Jésus-Christ est bien homme, hein, puisque ce que j'ai dit plus haut, c'est le besoin et la recherche de tout homme. Hein. Et puis, disons, en fait, pour résister aussi à la tentation, et puis aussi pour les uns et pour les autres, il priait. Les apôtres qui étaient autour de lui le voyaient prier. Ils avaient bien à leur disposition peut-être des psaumes, que Jésus d'ailleurs a eu l'occasion de réciter à plusieurs raisons, mais les apôtres sentaient que peut-être ils avaient besoin d'une prière qui venait directement de Jésus, une prière qui n'existait pas dans la Bible et que celle-là, c'était peut-être plus valable, plus importante, et ils lui ont demandé, bien entendu, donc, apprends-nous à prier. Et Jésus, et c'est relaté dans Matthieu, chapitre 6 et le verset 9 et 13, et puis Luc, dans le chapitre 11, dans les versets de 2 à 4, lui a donné le texte d'une prière que l'on connaît bien et qui s'appelle le Notre Père. Alors je pense qu'il serait bon pour rafraîchir sa mémoire, pour repréciser des choses aussi, et évidemment, que cette prière qui est souvent récitée, on pourrait dire même rabâchée par les chrétiens, et qui peut avoir perdu un peu de son importance, où on ne sait plus, à force de dire et de redire ces formules, ce que ça représente, dans des situations différentes, il serait peut-être bon de repréciser les choses. Alors, nous vous écoutons, Guillaume, pour nous parler de ce Notre Père. Alors, au passage, aussi, il faut savoir que cette prière vient directement de Jésus, qu'ensuite elle n'existait pas dans notre texte et qu'il y a deux versions. Alors peut-être après ces questions, peut-être un peu, disons, entre guillemets, administratives, on pourra prendre verset par verset.
Oui, donc effectivement, les disciples de Jésus viennent à lui et lui demandent d'apprendre à prier. Ils ont cette démarche dans l'évangile de Luc, hein, où peut-être l'aspect humain des disciples est mis en avant, alors que dans Matthieu, dans le sermon sur la montagne, au chapitre 6, Jésus va plutôt dire un ensemble de choses qui font partie de son programme de vie spirituellement valable. Et donc il va dire, quand vous priez, dites. Donc l'accent de l'apprentissage de la prière est plutôt mis sur Luc plutôt que dans Matthieu. Ce qu'on pourrait dire, c'est que ces disciples sont exhortés à dire un ensemble de choses. Notre Père est très intéressant parce qu'il donne une vision un peu globale des choses et considérer cet ensemble de choses de manière précise. Ça nous permet de fixer des cadres tout à fait particuliers et, comme vous l'avez dit, de sortir de quelque chose d'un peu formel, de quelque chose de routinier, parce que finalement, à la suite de ceux qui le disent dans les églises, on risque de dire le Notre Père peut-être sans conviction ou avec ou sans le sens réel des choses qu'on est appelé à dire.
Oui, parce que je pense qu'il y a certains versets qui peuvent être mal compris et ou détournés peut-être au départ de leur signification première. Alors on commence?
On y va?
On y va. D'abord, première remarque, notre Père. Si je dis notre Père, ça implique quand même déjà plusieurs choses. Je reconnais qu'il y a donc un Créateur, qui nous a engendrés. Il y a donc un Père. Un Père, donc, c'est rempli d'amour. Hein. Vous avez des enfants, j'ai des enfants, on sait ce que c'est. Et puis que Jésus, qui est donc aussi le fils de ce Père, il va avoir donc été frère des hommes, et donc nous allons être aussi ses fils adoptifs. Donc un père, un fils, qui nous permet d'être des fils aussi adoptifs, et que donc tout simplement, ce notre père sous-entend évidemment qu'il y a aussi le nôtre, cette fois, hein, que ça concerne beaucoup de personnes. C'est pas moi, mais c'est vous, c'est moi, ce sont les autres, ce sont les chrétiens et tous les autres.
Je pense que dans notre relation à Dieu, si chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, nous avions intégré ce que vous venez de dire, au savoir que Dieu est Père et qu'il est notre Père, alors dans la vie, il y aurait peu d'enjeux, il y aurait pratiquement pas de soucis, pas de craintes, pas d'inquiétude. Pas de profonde colère, pas de dépression, parce qu'en fait, Dieu est souverain et il est celui qui s'occupe de nous. Et c'est vrai que des choses arrivent, mais finalement, on ne comprend pas bien le sens des choses. Mais si on commençait par dire notre Père, alors certainement en nous-mêmes, on y apporterait énormément de paix, de sérénité. Et de ce point de vue-là, on pourrait dire que la prière est quelque chose qui a comme effet un effet sur nous qui est considérable. Là, on pense souvent à la prière pour les autres, à la prière en tant que relation avec Dieu, mais on peut aussi bien l'envisager en tant qu'effet sur nous parce que finalement cette relation avec Dieu en le reconnaissant comme Père et comme notre Père est quelque chose qui est fondamental.
Ça crée l'intimité entre le père et ses fils. Et ensuite, le deuxième verset, qui est aux cieux. Alors là, quand on dit le notre Père qui est aux cieux, je ne suis pas sûr que tout le monde a la même chose dans la tête quand on parle ces cieux. D'abord, c'est pas un lieu géographique. C'est pas derrière le nuage qui est là-haut et à quel degré qui se situe. Alors, ça désigne, je suppose, un état spirituel qui invite à monter, à aller vers le haut. Moi, je vois que qui est aux cieux, ça m'oblige à lever la tête, et si je lève la tête, je dois élever mon cœur aussi et tout mon esprit. Et on y est, je suppose, qu'il est au ciel, mais disons avec aussi l'esprit. Et ça ouvre aussi une porte à l'espérance.
Les cieux, ce sont les lieux élevés. Dans la Bible, de manière assez générale, les cieux, c'est l'atmosphère. Et quand il est question des cieux et de la terre, c'est donc la terre et son atmosphère, les cieux. Et de manière un peu virtuelle, le soleil et la lune sont dans les cieux, c'est-à-dire
Oui.
qu'on les voit à travers l'atmosphère. L'atmosphère, c'est cette voûte qui entoure la terre. Mais du point de vue moral, les cieux, ce sont les lieux élevés, et Dieu est dans les cieux. Dieu est dans les lieux élevés. Il est dans ce monde invisible qui est à côté de nous, en fait, mais qui sont des lieux élevés parce que ce sont des lieux puissants. Et donc notre Père est aux cieux. C'est notre Père puissant, et Dieu veut dire puissant. Elohim, c'est le puissant par excellence. C'est le plus puissant des puissants. Il est plus puissant que les anges et les démons. Et il est donc celui en qui nous pouvons avoir confiance parce que justement, il est élevé, et non seulement élevé du point de vue moral, il nous aime, il est patient, il est doux, il est délicat, etc. Mais il est élevé au niveau puissant, il n'y a personne qui puisse se tenir devant lui et qui puisse arrêter sa main, qui puisse le vaincre.
Oui, donc disons que systématiquement, qui est aux cieux, ça appelle à une élévation, puisqu'on trouve
Systématiquement,
Dieu plus puissant. Voilà. Alors, que ton nom soit sanctifié. Je crains que là aussi, le mot sanctifié ne soit pas bien saisi.
La sanctification, c'est quelque chose peut-être qu'il n'y a pas souvent de prédication, d'homélie sur la sanctification.
Oh, ben, attendez, je vous arrête tout de suite parce qu'on a l'impression que ton nom est sanctifié, qu'on a l'impression de demander à Dieu d'être saint. D'abord, ce serait un peu osé de notre part de dire Dieu soit saint, hein, fais attention. En fait, ce n'est pas sanctification.
Alors, je vais quand même continuer
oui,
ce que je dis.
Oui, d'accord, pardonnez-moi.
C'est-à-dire que la sanctification, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas très compris ou pas très connu en tant que réalité, ou qui est peut-être en général confondu avec autre chose qui est la pureté. Être saint, on pense peut-être qu'un saint, c'est quelqu'un qui ne fait jamais les choses de travers. Alors que le saint est quelqu'un à qui il arrive de pécher. Le saint, c'est quelqu'un qui a été sanctifié, et par exemple, nous lisons dans la lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 6 et au verset 11, il nous dit cette expression « Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom de notre Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Vous avez été sanctifiés. » Et quand le même apôtre Paul s'adresse à ceux qui sont à Philippe en Macédoine, dans sa lettre aux Philippiens, il s'adresse aux saints, et puis de la même manière que quand il le fait aux Romains, c'est-à-dire à ceux qui sont appelés saints, c'est-à-dire à ceux qui sont capables d'entrer dans la présence de Dieu. La sainteté, c'est la capacité d'entrer dans la présence de Dieu. Donc, que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que ton nom soit connu de personnes qui puissent finalement être dans ta présence, que ton nom puisse être dans la présence de ceux qui sont en relation avec toi.
Donc,
hein, on le dirait aujourd'hui que ton nom soit connu finalement.
Voilà ça, oui, c'est ce que j'allais vous dire. Donc, en fait, c'est une demande que ton nom soit sanctifié par nous. C'est nous qui voulons devenir comme toi.
C'est ça, c'est-à-dire que ton nom soit sanctifié, je crois que c'est une demande pour les autres, c'est-à-dire que le nom de Dieu soit connu par les autres et que les autres puissent être sanctifiés et de ce fait que ce nom-là soit dans leur présence.
Voilà. Oui. Voilà. Donc, c'est une, en fait, donc, une participation à la vie de Dieu. On veut y être. Verset suivant, que ton règne vienne. Alors, on a l'impression qu'on veut que Dieu vienne régler nos affaires, gère notre petite vie sur cette terre, mais je pense qu'il y a aussi une autre signification, que si on parle de règne, on parle d'un royaume qui est un territoire. Et s'il y a un royaume et un territoire, c'est qu'à sa tête, il y a un roi. Donc, que ton règne vienne, c'est le souhait de voir que, en fait, Israël, puis nous aussi, toutes les nations, nous souhaitons que Dieu soit parmi nous.
C'est ça, c'est exactement ça. Il faut bien préciser dans la lecture de la Bible que Jésus commence par prêcher une bonne nouvelle. On voit ça au chapitre 4 de Matthieu et au verset 23, donc juste avant le sermon sur la montagne. Il est écrit « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue et prêchant l'évangile du royaume. » C'est-à-dire que le royaume était présenté comme une bonne nouvelle. l'évangile du royaume. Prêcher l'évangile, ça ne veut pas dire finalement prêcher le salut, c'est prêcher que, comme vous le dites, Jésus était venu comme roi dans un royaume qui était Israël, et pour régner. Mais Jésus ne régnait pas. Hein, pour qu'un pays soit un royaume, il faut qu'il ait, comme vous l'avez dit, un roi qui règne. Et donc, le propos de Dieu était d'habiter au milieu de son peuple et de faire qu'il ait un vrai roi, qui est le Messie, qui est le choisi. Messie, en hébreu, Machia, ça veut dire roi, et Christ, c'est le même mot en grec, Christos, qui veut dire roi également. Et l'onction, le fait qu'on répande de l'huile sur la tête de quelqu'un, était le signe que Dieu choisissait quelqu'un. Alors, ceux qui étaient oints, c'était les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Et donc, que ton règne vienne, c'est cette prière pour que, effectivement, le règne du Christ soit là. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cette prière? Est-ce que le fait de que le Christ ne soit pas là viendrait plutôt de Dieu ou plutôt des hommes? Alors, la réponse, c'est que ça vient des hommes. C'est-à-dire que les hommes, quelque part, ne voulaient pas de Christ. Peut-être parce que les rois tenaient beaucoup plus à leurs privilèges, beaucoup trop à leurs privilèges, et que, de ce fait, quand Christ est venu, alors Christ, qui était venu pour être roi, eh bien, a été rejeté et crucifié, et même mis à mort par les chefs du peuple et par les religieux. Donc, que ton règne vienne, c'est cette prière, elle est là pour que, au moment où les Juifs sont là, bien qu'ils appellent le Christ à régner, ce qu'ils n'ont pas fait, mais nous pouvons aussi dire que ton règne vienne, parce que nous attendons ce moment où Christ règnera comme roi sur Israël et comme roi des nations, parce que les rois des nations viendront reconnaître Christ comme roi.
Donc c'est ce royaume qu'on réclame, qu'on demande.
C'est ça.
On ne demande pas que Dieu règne sur Israël. C'est le royaume définitif.
C'est ça. Alors, l'application pratique pour aujourd'hui, c'est peut-être aussi de comprendre que tant que Christ n'est pas là pour régner, alors d'un point de vue politique, eh bien, les choses ne vont pas bien. Hein, tant que Christ n'est pas là, malheureusement, les puissants dominent, les industriels trafiquent et nous font manger des choses qui ne vont pas. Il y a des malfaçons de partout, il y a des escroqueries, des arnaques, il y a des exploitations, il y a de l'esclavage. Et donc, nous soupirons, et l'écologie soupire également, et bien d'autres choses. Et donc, il nous s'agit de travailler pour que les choses puissent bien aller, mais tant que Christ n'est pas là, alors je crois qu'elles n'iront pas parfaitement bien.
Alors, nous passons à la suite. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, que ta volonté soit faite. Est-ce que c'est un appel? On fait un geste d'humilité et on demande, permets-nous d'être dans notre terre, dans notre milieu, là où on vit, tout simplement obéissant à ce que tu demandes, à ce que tu veux. Est-ce que cette obéissance doit peut-être arriver jusqu'à être soumis à Dieu et se laisser aller dans sa main? Alors ça, c'est peut-être pour la première partie, que ta volonté soit faite sur la terre et comme au ciel. Là, ça me pose peut-être un autre problème.
Je pense que cette prière, cette partie de la prière nous pousse à bien préciser quelque chose et à bien se positionner par rapport à cette chose qui est ce que nous demandons. Est-ce que ce que nous demandons est quelque chose que Dieu doit nous donner, ou est-ce que c'est quelque chose que Dieu nous demande de faire? Quand on dit, par exemple, révèle-moi ta volonté, alors je crois que c'est une prière légitime, parce que peut-être que Dieu attend vraiment qu'on lui demande, qu'on soit dans cette position d'intérêt, d'intéressé, de curieux, de désireux vraiment de connaître sa volonté. Mais par exemple, quand on lui demande, quand on dit « Dieu, donne-moi d'aimer mon frère », alors là, la prière n'est pas justifiée, elle n'est pas légitime. Parce qu'en fait, Dieu ne va pas nous donner d'aimer notre frère, Dieu va nous donner, Dieu nous a déjà donné l'amour. Dieu nous a déjà fait des êtres d'amour et on est capable d'aimer notre frère. Alors, que ta volonté soit faite, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est quelque chose qui concerne Dieu ou qui nous concerne? Alors, je crois que si ça concerne Dieu, ben, c'est pareil. Dieu, de toute façon, il le fait et on n'a pas tellement notre place dans cette prière. Alors, si ça nous concerne, nous, que ta volonté soit faite, ça peut vouloir dire aide-nous à avoir conscience de ta volonté et à savoir, finalement, la mettre en pratique. Aide-nous à être conséquent, à être vraiment dans la réalité de ce que tu nous demandes. Il y a ici, dans cette prière, que ta volonté soit faite, quelque chose qui touche à la fragilité de l'humain, à sa faiblesse. Et donc, on est tous, on peut tous aller dans ce sens, de dire, finalement, notre Père qui est dans les cieux, montre-nous ce qu'il faut que nous fassions et aide-nous à voir pourquoi est-ce qu'éventuellement nous ne mettons pas en œuvre. Mais après, la question des cieux, que ta volonté soit faite, hein, sur la terre comme au ciel. Alors ici, je note le « comme » au ciel.
Oui.
Le « comme », c'est-à-dire que sur la terre comme au ciel. Le « comme » indique qu'il y a une antériorité du ciel par rapport à la terre.
Oui, ça existe déjà au ciel.
C'est-à-dire que dans le monde invisible, la volonté de Dieu est absolument claire, mais par contre, sur la terre, elle n'est peut-être pas absolument claire. Parce que l'ensemble des personnes qui sont finalement des administrateurs de Dieu, des personnes à qui Dieu a délégué des choses, alors ces gens-là peuvent être sourdes ou peuvent être finalement avec des centres d'intérêt qui font qu'ils ne vont pas mettre en œuvre le fait de faire la volonté de Dieu. Donc la prière ici est pour que sur la terre, et ici la terre, c'est la terre d'Israël, c'est dans le pays d'Israël, que dans ce pays-là, la volonté de Dieu soit faite. On pourrait dire, par exemple, aujourd'hui, nos autorités sont censées nous représenter. En France, aujourd'hui, au XXIe siècle. Et on pourrait dire, avec que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre de France, donc dans le pays français, comme au ciel. C'est-à-dire que le pays français soit strictement ce que toi, dans les cieux, tu as défini que le pays français devait être.
Oui. Donc, on peut passer, disons, à la verset suivant.
On y va.
On y va. Alors, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Là, je pense que c'est un verset qui est bien connu, bien aimé, parce que on se sent beaucoup plus tranquille. Alors, attention. Dieu nous accorde, on lui demande qu'il nous accorde de quoi vivre, qu'il satisfasse nos besoins humains, nos besoins matériels, mais il ne faudrait pas que, évidemment, cela devienne une obsession. Donc, peut-être qu'il faut faire confiance, comme les oiseaux du ciel ou les lys des champs, tout simplement à la bonté de Dieu. Déjà, on peut être libéré de certains soucis s'il nous accorde évidemment notre pain de ce jour. Mais je crois que le pain à partager n'est peut-être pas obligatoirement un pain matériel, mais ça peut être aussi une nourriture céleste, c'est-à-dire la parole à comprendre et la scène à partager. Donc là aussi, c'est un autre pain à partager, effectivement. Alors, ça peut être aussi une lutte contre toute pauvreté matérielle, corporelle, financière, sociale, spirituelle, mais je crois que ça se mêle un peu, toutes ces notions.
Ce qui est particulier dans le choix de Dieu à l'égard de la terre d'Israël, c'est que Israël, c'est ce tout petit pays rocheux qui est situé entre l'Égypte, terre fertile s'il en est, avec le Nil et les crues du Nil qu'il y avait à l'époque, et la Mésopotamie, en grec, potamie, c'est le fleuve. Et donc, la Mésopotamie, c'est ce territoire qui est entre les deux fleuves. Et donc, un autre pays fertile, et Babylone, et toute le croissant fertile, oui, hein, de Babylone, ce sont des terres très riches. Et donc, Dieu a choisi ce pays, cette terre d'Israël, entre deux endroits qui sont très riches. Et donc, donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. C'est parce qu'en fait, les gens en Israël étaient tout à fait dépendants au niveau nourriture, au niveau pluie, au niveau fertilité des sols, de la main de Dieu. Quand il ne pleuvait pas, alors ils n'avaient pas de récolte. Quand il ne pleuvait pas, ils n'avaient rien à boire. Et donc, je crois que dans cette prière, il faut y voir une dépendance tout à fait précise, comme vous l'avez dit, à la fois finalement des choses matérielles, mais du partage des choses matérielles et du partage des choses morales. Je crois que si on était véritablement dans cette prière, alors chaque fois que l'on a une journée qui se présente, alors on pourrait être dans cette démarche de dire, mais Père du ciel, Père céleste, aujourd'hui, je suis dans cette dépendance à toi, et c'est à toi que je veux avoir affaire, dans les choses faciles comme difficiles, et c'est toi qui es ma véritable ressource.
Verset aussi essentiel du Notre Père, c'est le verset qui suit, c'est « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Alors là, on peut penser que c'est la règle essentielle du christianisme. Il y a une matérialisation dans ce pardon qu'on doit accorder aux autres, de l'amour. Et c'est, j'allais dire une obligation, mais le mot est mal choisi. C'est la continuation de quelque chose de magnifique qui existe. C'est tout simplement, nous sommes pardonnés par Dieu une bonne fois pour toutes, il nous a sauvés, nous sommes justifiés. Eh bien nous, qu'est-ce qu'on peut que faire? Mais prolonger cet acte et pardonner aux autres ceux qui nous ont fait de mal, ou qu'on pense qu'ils ont fait de mal, ou qui nous ont blessés, ou... Bref, qui nous ont offensés. Et donc là, c'est l'amour, la charité qui doit intervenir. Alors ce pardon, c'est ce qu'on va demander, exclut évidemment une idée de châtiment. On ne dit pas, celui-là a été méchant avec moi, Seigneur, eh bien, tâche de lui régler son compte. Ça n'existe pas, ça.
Oui, comme vous le soulignez, je crois qu'il y a un besoin de continuité qui est très important dans ce que nous avons reçu et ce que nous faisons. Premier besoin de continuité que je voudrais souligner, c'est celui de s'approprier ce que Dieu a fait. S'approprier ce que Dieu a fait. Pourquoi ? Eh bien, par exemple, je rencontre souvent, dans le cadre de mon travail, des personnes qui regrettent leur vie. Et bon, moi je n'ai que 52 ans, mais c'est quelque chose dans ma vie chrétienne que j'ai compris, c'est que en fait l'œuvre de Christ m'a purifié de ce dont j'avais à être purifié. Il, comme vous l'avez dit, il m'a justifié, c'est-à-dire que je suis juste devant Dieu, je ne suis plus condamné par Dieu, et de fait, je n'ai pas moi à porter le fardeau de quelque chose que j'aurais fait, puisque Jésus-Christ a payé pour moi. Mais cela n'empêche pas que je puisse être amené à demander pardon, aussi, quelque part, quand je fais quelque chose de mal, quand je... à Dieu, de revenir vers Dieu et de dire, bah, écoute, je me suis laissé aller, là, il y a quelque chose que je n'ai pas résolu, et je reviens vers toi, pour régler cette chose-là. C'est cette première continuité que je voudrais souligner. C'est-à-dire le fait de s'approprier pour soi-même ce qui est essentiel dans l'œuvre de Dieu, savoir que Dieu a réglé finalement les choses que moi j'avais mal faites. Et je pense que on n'imagine pas à quel point dans ce premier aspect, il y a des choses qui sont à régler. Après, il y a un autre aspect, comme vous le soulignez, qui est le fait de le transmettre aux autres. Transmettre le pardon aux autres, c'est-à-dire être disposé à pardonner, ne pas retenir quelque chose contre quelqu'un, ne pas alimenter la colère, réaliser que finalement la faute que Dieu nous a pardonnée est grande, et que parce que j'ai compris que Dieu m'a pardonné une grande faute, alors je suis moins capable de le faire et je suis appelé à le faire. Alors ça, c'est aussi quelque chose que je devrais faire, et c'est vrai que avec les vendetta, avec quantité de choses, on connaît des situations dans lesquelles il y a un déficit de pardon qui est assez important.
Puis aussi, si on voit un peu rapidement, on a l'impression que c'est presque, pas un chantage, mais enfin un marché. Pardonne-nous nos offenses, parce que j'ai fait quelque chose qui ne va pas bien, comme nous pardonnons ceux à ceux qui nous ont offensés. J'ai l'impression qu'on prend le truc, la chose à l'envers, là. En fait, c'est Dieu qui a pardonné depuis le début. C'est pas parce que nous, on pardonne à nos frères que nous devons être pardonnés par Dieu. Bon, ça se justifie aussi, on l'a expliqué. Hein. Bon, on est obligé de vivre dans la continuité. Mais là, quand même, c'est curieux, cette formulation.
Alors, je crois que vous soulignez le « comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », on peut le voir dans le marchandage, comme vous le faites, hein, c'est tout à fait juste, à mon sens, et on peut aussi le voir comme, finalement, comment dire, quand on ouvre un robinet d'eau, alors on donne, on va arroser, par exemple, le potager, et plus on arrose, plus l'eau vient de la part de la compagnie des eaux. Et quand on pardonne, finalement, aux autres, on ouvre le robinet du pardon, qui fait que le robinet du pardon vient de Dieu, hein, et vient de Dieu et que le pardon nous est donné. Donc, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aux autres. Il y a quelque chose qui est généreux, qui est, voilà, hein, voilà, et qui est un peu logique, dans lequel on peut trouver une sorte de logique. Vu que c'est la prière qui est enseignée par Jésus, je ne peux pas y voir tellement de péjoratif. Et donc, j'essaye d'y voir quelque chose de plus magistral, de plus profond. Et Jésus nous dit, dit à ses disciples en tout cas, faites cette prière, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors je dirais que il y a finalement, de manière explicite de la part de ceux qui prient, cette démarche de pardon vers notre frère, et que cette démarche correspond à la démarche de pardon que nous avons vers Dieu. Comme si, finalement, on disait à Dieu, bah, tu vois, je veux, pardonner à mon frère, hein, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et je me tourne vers toi pour que je reçoive vraiment quelque chose de plein, et qui est pour moi, et qui rejaillira aussi sur les autres.
Alors, ne nous laisse pas succomber à la tentation. Donc là, on peut être surpris, on se dit comment Dieu peut-il nous laisser succomber à la tentation? Si oui, pourquoi? Cette tentation, c'est des occasions qui l'ont produite, ou est-ce que c'est Dieu qui nous l'envoie? Et on veut être assez fort pour résister, de rester vigilant, on veut être prudent pour que l'épreuve soit peut-être une possibilité d'enseignement, en tirer quelque chose. Mais on risque d'être découragé quand même devant ce verset. Il faut jouer alors là sur l'espérance, parce que si on comprend très bien, ne nous laisse pas succomber à la tentation.
On peut commencer par se poser la question de pourquoi est-ce que Dieu permet la tentation ou l'épreuve.
Oui.
On peut dire que de manière assez générale, l'examen du baccalauréat, le permis de conduire, le fait de franchir, de gravir une montagne, le Mont Blanc par exemple, c'est une épreuve qui nous permet de savoir où est-ce que nous en sommes.
Oui.
Et si on n'a pas l'épreuve, alors on ne sait pas où est-ce que nous en sommes. Si on n'a pas le bac, on ne sait pas qu'on aura examiné un certain nombre de textes qui nous permettront d'être dans une moyenne suffisante pour avoir notre bac. Et donc, l'épreuve est nécessaire. L'épreuve, elle révèle ce dont nous sommes capables, et notre niveau en quelque sorte. Alors l'épreuve, elle peut nous écraser, elle peut nous donner l'impression que nous sommes incapables, et donc dans l'épreuve, il y a cette prière de celui qui passe l'épreuve, qui dit, finalement, ne me conduis pas dans quelque chose dans lequel je ne pourrais pas perdurer. Je crois que c'est une manière de dire à Dieu, écoute, j'ai besoin de toi et j'accepte l'épreuve, mais je souhaite bien la résoudre comme toi tu m'appelles à la résoudre.
Parce qu'on donne aussi là une impression que ne nous laisse pas succomber à la tentation, c'est qu'on pourrait y succomber. Or, on sait que nous sommes justifiés, pardonnés. Donc là, il y a d'un décalage qui apparaît.
Le fait d'être justifié et pardonné ne veut pas dire qu'on ne va pas succomber à la tentation. Voilà. Et donc, quand finalement se présentent les difficultés, cette prière finalement est une forme de résistance.
Oui.
Hein, on pourrait dire par exemple qu'elle correspond un peu à la prière de l'apôtre Paul qu'il conseille à Timothée quand il lui dit « Fuis les convoitises de la jeunesse ». Hein, soit dans cette attitude de ne pas succomber à la tentation de voler, de mentir, de faire du mal, de toutes sortes d'impuretés, etc.
Oui. Et ensuite, là aussi, remarquez, je dis chaque fois, c'est le verset le plus important, mais le sont tous, « Mais délivre-nous du mal ». Alors, ce mal peut être un mal physique. Le chrétien qui récite le Notre Père, lorsqu'il va arriver là, il va se dire « Oui, que je ne sois pas malade », ou moral, que je ne me laisse pas, que je ne suis pas, disons, laissé tenter parce qu'il ne va pas, ou au point de vue social, toutes les crises qu'il peut y avoir, ou spirituelles, que je connaisse mal Dieu et que sa parole ne m'intéresse pas trop. Alors en fait, que délivre-nous du mal, c'est de nous livrer d'un mal général, bien entendu, probablement aussi de Satan qui passe toujours par là, hein, puisqu'il se promène parmi nous, comme on trouve dans Job. Et donc là, on peut évidemment souhaiter que la grâce qui nous est donnée, eh bien, soit vivifiante. Je veux dire qu'on est justifié, mais que ça nous permette de faire face.
Une question importante, c'est de savoir quel est le mal le plus basique. Quand est-ce que commence le mal? Et je propose un élément de réponse, qui est de dire que le mal commence quand la vérité n'est pas en nous, quand on ne voit pas vrai à l'égard de Dieu, à l'égard de soi, à l'égard des autres, à l'égard des circonstances, à l'égard de mes actions. Et donc, délivre-nous du mal, ça veut dire donne-nous de savoir ce qu'il faut à l'égard de toutes ces choses. Délivre-nous du mal. Parce que finalement, délivre-nous de la difficulté, c'est permets-nous de comprendre de quelle force nous a revêtus pour que nous puissions franchir la difficulté qui se présente. Délivre-nous du mal. C'est donc un constat de faiblesse sans Dieu, hein, d'incapacité sans Dieu, mais de recours qui est absolument légitime à Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu fera les choses à notre place, ça veut dire que Dieu nous donnera de manière tout à fait claire le sens de ce qu'il faut penser à l'égard de ce qui se présentera. Pensez bien et non pensez mal.
Presque à la fin du Notre Père, et par une formule effectivement extraordinaire, disons que même parfois dans les églises réformées, on oublie que les catholiques laissent de côté, c'est pas vrai, mais on reprend ce verset quand même, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Eh bien, c'est formidable. Je trouve ce verset. Bon, c'est un hommage, une louange au Dieu unique, qui est puissant, qui est le seul qui peut nous assurer de son amour et nous donner l'espérance dans cette vie et qui nous attend dans sa gloire aussi. Hein? Par conséquent, on ne peut qu'adhérer là. Si l'on récite le Notre Père, disons, sans le chanter, je crois que ce verset, il faudrait tous le chanter. Pour lui donner vraiment l'importance et l'ampleur que cela.
Alors dans cette dernière expression du Notre Père, on va examiner quatre choses.
Oui.
D'abord le car c'est à toi qu'appartiennent. Je trouve que cette expression conclusive, cette conclusion marque vraiment qu'on reconnaît Dieu comme étant celui de qui et par qui sont toutes choses. Hein, c'est à toi qu'appartiennent. C'est à toi, finalement, c'est toi qui es le propriétaire. Le propriétaire des lieux, le propriétaire des personnes, le propriétaire des circonstances, le propriétaire de la puissance. Hein, c'est à toi qu'appartiennent.
On peut dire le Père, tout simplement.
Le Père.
À la place du propriétaire.
Et de ce fait, intégrer cela dans nos prières et dans notre Père prendre du temps pour méditer sur ces choses-là devrait vraiment créer un retentissement très important dans nos modes de vie. Je crois que si vraiment on prenait le temps de le réaliser, alors quand on nous cambriole chez nous, on ne devrait pas dire « on m'a cambriolé ». On devrait dire « on a cambriolé Dieu ».
Oui.
Hein? Quand je suis en mauvaise santé, je ne devrais pas dire « je suis en mauvaise santé ». Je devrais dire quelque part que Dieu qui est mon Père voit que je suis en mauvaise santé et Dieu va faire quelque chose. Je ne devrais pas rester au constat du « je suis en mauvaise santé ». Parce que finalement, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Dit l'apôtre Paul dans des circonstances particulières, mais je crois que il faudrait que nous intégrions cette dimension d'enfant de Dieu et du fait que nous appartenons à Dieu. Alors, deuxième point, développons un petit peu ce que cette dernière prière, car c'est à toi qu'appartiennent le règne. Donc le règne, c'est ce souhait à l'époque, quand Jésus était sur terre, ce souhait des Juifs que le roi règne, que Dieu en le Christ Messie. Règne, que le Messie règne. Et de ce fait que, premièrement, les Romains soient boutés hors d'Israël, qu'il n'y ait plus d'exactions, qu'il n'y ait plus d'exactions parce que les Romains n'étaient pas des enfants de cœur, qu'il n'y ait plus de, finalement, qu'il y ait dans ce règne un règne de justice, que le pauvre soit considéré, que justice soit faite, que les oppresseurs soient finalement sanctionnés, punis, mis hors d'état de nuire, etc. Que ton règne vienne, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, le règne. Donc le règne appartient à Dieu. Quand je dis c'est à toi qu'appartient le règne, ça veut dire que finalement c'est à toi qu'il appartient de savoir le moment où tu vas venir régner, mais c'est en toi que je vois celui qui a la puissance de faire venir le règne et celui qui a la puissance de faire venir la justice. De sorte que par exemple, mon aigreur actuelle qui pourrait être importante à l'égard des chefs politiques, oui. Qui prennent des mauvaises décisions, qui prennent des décisions en faveur des financiers et non pas en faveur de l'écologie, en faveur des financiers et non pas en faveur de l'éducation nationale, en faveur des financiers et du système bancaire et non pas en faveur de ceux qui mettent la main au portefeuille. Alors, mon aigreur à l'égard de ceux qui, pour l'instant, ont le pouvoir, pourrait me faire oublier que le pouvoir appartient à Dieu. Mais que si Dieu permet que ceux qui ont le pouvoir et ceux qui en profitent le font, alors c'est pour quelque chose de bien particulier. Car c'est à toi qu'appartient le règne. Alors je sais que si je vis dans une période où finalement il y a quantité de choses injustes, ça a certainement un sens. Et donc en disant cette expression dans ma prière, c'est à toi qu'appartient le règne, je crois que je dois être libéré de l'amertume, de l'injustice, libéré de l'impatience, libéré de tout ce qui ne se produit pas tant que le règne ne vient pas.
C'est une confiance qu'on exprime
voilà.
Aux événements que l'on peut vivre.
Voilà. Deuxième point, car c'est à toi qu'appartient la puissance. Alors, la puissance, on l'a exprimée par exemple dans le « donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, notre pain quotidien ». Et il y a des périodes de vaches grasses, des périodes de vaches maigres. Et donc, c'est à toi qu'appartient la puissance. C'est à toi qu'appartient la puissance de me donner beaucoup, de me donner peu. Quand le grain produit 30, 60 ou 100, dans le grain de blé produit, alors c'est pas moi qui vais décider s'il produit 30, 60 ou 100, malgré tous les progrès de notre savoir en ce qui concerne la biologie, les semences, tout l'art de l'agriculture, etc. C'est à toi qu'appartient la puissance. Quand il est dit ne me conduis pas dans la tentation ou ne me permets pas de succomber dans la tentation, alors je crois que là aussi, c'est à toi qu'appartient la puissance. C'est-à-dire que je crois que si Dieu permet que je sois abattu, que je sois fatigué, que je ne sois pas en forme, que j'ai des idées noires, c'est que ça a un sens. C'est à toi qu'appartient la puissance. Alors, quand, par exemple, on se rend compte et on dit « est-ce que ça va ?» Alors, quand quelqu'un va dire « non, ça ne va pas », est-ce que c'est un non qui est passé au crible du « car c'est à toi qu'appartient la puissance » ou est-ce que c'est un non qui dit « moi, de toute façon, quand je ne suis pas en pleine forme, que mon compte en banque n'est pas garni et que je ne suis pas plein d'amis, alors ça ne va pas. » Eh oui. Mais là, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et si on intégrait cette donnée de la puissance de Dieu, non seulement dans notre prière, mais dans le quotidien de tous les jours, alors je crois que les choses seraient sensiblement changées. Et puis, la troisième chose, c'est « car c'est à toi qu'appartient la gloire ».
La gloire.
Alors, je crois que comme sanctification... comme le mot sanctification, le mot gloire est un mot qui n'est pas bien compris de manière habituelle. Le mot gloire, c'est la manifestation de Dieu, c'est le fait qu'il fasse connaître quelque chose. La gloire d'un homme, c'est ce qu'il manifeste. La gloire de Dieu, c'est ce qu'il manifeste. En hébreu, le mot gloire, kavod, c'est le poids, comme pour montrer le poids de quelqu'un, hein, percussion de quelqu'un, la puissance de quelqu'un. En grec, c'est doxa, qu'on trouve dans doxologie, par exemple. Et doxa, ça vient de dokeo, qui veut dire paraître ou manifester. La gloire de quelqu'un, c'est non seulement ce qu'il pèse, mais ce qu'il manifeste, ce qu'il paraît. Et quand on voit quelqu'un, on peut dire si quelqu'un est glorieux ou pas glorieux, justement parce qu'on sent son poids, on sent sa mesure, et on sent qu'il est capable ou non de dire quelque chose. La gloire. Car c'est à toi qu'appartient la gloire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, qu'appartient la gloire? Eh bien, il me semble que c'est à Dieu qu'appartient le fait de manifester quelque chose. C'est à Dieu qu'appartient le fait de manifester l'aboutissement des temps ou, au contraire, eh bien, le fait que ce soit pas encore le moment d'aboutir. Oui. C'est à Dieu qu'appartient le fait de se manifester. De se manifester pleinement. Alors, il y a des moments où je comprends tout, des moments où je ne comprends rien. Quand je lis la Bible, par exemple, alors je peux dire qu'il y a des jours où la lecture biblique va me remplir de béatitude, de sens, où je vais comprendre des choses, où je vais me dire « Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ? Je suis vraiment rempli d'illumination et ça marche bien. » Et puis, il y en a d'autres où je vais dire « Mais c'est une catastrophe. Je ne comprends rien. » Alors, quand je ne comprends rien, si je finissais le « je ne comprends rien » avec le « car c'est à toi qu'appartient la gloire », c'est à toi qu'appartient la manifestation. Et là, je relativiserais les choses. Voilà. Hein, exactement. Et je crois que c'est là où cette prière prend tout son sens.
Et puis bon, on ne termine pas « Amen », ainsi soit-il.
On se soumet. On se soumet, on dit « c'est la vérité », puisque « Amen », ça veut dire « c'est la vérité ». Et je pense qu'on se soumet pleinement à quelque chose qui est très utile pour nous dans tous ces domaines. Alors, on va peut-être conclure en disant que cette prière est la prière que Jésus a prié à ses disciples, mais à des disciples qui n'étaient pas remplis de l'Esprit de Dieu. Et il faut dire que on a, comme les disciples,
besoin... Ils ont dû se poser des questions aussi.
Pardon ?
Ils ont dû se poser les mêmes questions.
C'est ça. Ils se posent les mêmes questions que nous, mais eux n'avaient pas le Saint-Esprit comme nous l'avons. Et donc, on peut remarquer que si les domaines de la prière du Notre Père sont immenses, sont vraiment excessivement importants, on peut remarquer que le Notre Père n'est pas quelque chose qui est repris après la Pentecôte. Donc, on peut dire que, par contre, il nous est proposé de prier par l'Esprit. Priant par l'Esprit, par toutes sortes de supplications.
C'est-à-dire, vous voulez dire de prier autrement que par des formules qu'on nous a données.
C'est ça.
Voilà. être plus soi-même vis-à-vis de Dieu.
Je proposerais par exemple qu'on reprenne les différents domaines du Notre Père sur le nom de Dieu, que ton nom soit sanctifié, sur la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite, sur les domaines, le ciel, la terre, sur le pardon, sur le fait de mettre en rapport le pardon de Dieu et le pardon auprès des autres, sur le pain quotidien, sur le règne aussi que j'ai oublié, sur la question du mal. Mais dans la mesure où l'Esprit de Dieu nous conduit, alors je crois que peut-être un jour, cette prière nous sera donnée, que ton règne vienne, en disant « Seigneur, je te prie pour nos autorités, parce que quelque chose ne va pas du tout. Mais je ne dirai pas que ton règne vienne. »
Voilà, une autre l'adapter fois, à la situation.
Une autre fois, je prierai pour mon frère ou mon voisin ou mon collègue de travail, et je ne dirai pas « Pardonne-moi mes offenses, comme aussi j'ai pardonné à mon frère. » Je prierai en disant « Voilà, Seigneur, j'ai pardonné à mon frère. » Et en pardonnant à mon frère, je me suis rendu compte que j'avais à te demander pardon sur ce qui s'est passé. Et c'est ça que j'appelle un peu la prière par l'esprit, la prière ouverte, qui est une prière dans laquelle nous ne sommes pas forcément obligés de redire
les mêmes
formules. Mais quand nous les redisons avec toute la puissance, tout l'éclairage de l'Esprit de Dieu, bien sûr.
Mais ce que vous venez de dire est très juste, et je comprends bien, mais alors ce serait valable pour toute la Bible.
Absolument.
Donc c'est une liberté qui est laissée aux chrétiens, de se mettre en relation avec Dieu et de vivre selon Dieu.
Voilà, on remarque par exemple que dans l'ensemble du corpus des lettres des apôtres, il n'y a pas de prière modèle.
Oui.
Hein, il y a cette injonction à prier, on voit les disciples en acte 1 qui prient, en acte 12 qui prient, on voit Paul qui nous appelle à prier sans cesse, en tout lieu, en toutes circonstances, etc. On est appelé à rendre grâce, par exemple, mais il ne nous est pas dit comment. Hein, voilà.
Là, c'est un point important à souligner. Alors, pour conclure parfaitement avec ce que vous venez de dire, je peux vous lire Notre Père, mais qui est exprimé par quelqu'un qui ne va pas suivre exactement les versets et les mots. Il a utilisé les siens et non pas ceux qui sont dans la Bible. Et c'est une personne qui était incarcérée dans une prison, évidemment, de la région. Père céleste, que ton nom soit désiré, que la planète bleue soit tienne. Ton étoile illuminera la terre, comme elle rayonne aujourd'hui sur nos têtes. Permets à Dame Nature de nourrir l'homme de jour en jour. Lave à l'orage nos âmes souillées et par l'eau pure des ruisseaux, rinçons les inimitiés. Ne nous attire pas au fond, au chant des sirènes, mais désenchaîne nos ancres de peine.
Amen.
Amen.